Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour Parler Temps qui court. Tous les soirs, une conversation d'une heure avec les artistes ce soir. Aurélie Ferruel et Florentine Guédon sont avec nous.
Un tango, une danse, un baiser.
Et du bout à pépé, pépé.
Ça y est, je suis 21h.
Ah ben, à vous voir arriver, on n'aurait pas cru que c'était si bien. Donc, ça résume, quoi.
C'est vrai que le printemps, l'été, c'est formidable. On avait les mêmes tomates et les petits pois.
Par les temps qui courent.
Marie Richeux avec
Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. Trois figures féminines sortent du sol, descendent du plafond, on ne sait pas vraiment, elles sont en terre qui craquelle, elles sont des lianes ou des racines ou les deux, car ça existe, les lianes ou les branches qui, ployant jusqu'au sol, finissent par s'y replanter. Du corps de ces figures végétales apparaissent par endroits des serpents de verre, effrayants, gueule ouverte, dents menaçantes et yeux globuleux. Si le serpent est dans la femme, beaucoup de questions se trouvent réglées. Je rigole. Un peu plus loin, une Harley Davidson est faite de paille et le drapeau à l'arrière, légèrement déchiré, ne laisse pas deviner les couleurs qu'il porterait haut. Plus loin encore, une très grande tapisserie aux couleurs vives figure des travaux des champs. Et puis il y a le dindon, le grand dindon aux pattes multiples, un gros dindon qui sue. Beaucoup d'autres choses encore à voir pour savoir. On ne sait pas où on se trouve. Dans votre exposition visible jusqu'au 19 avril prochain, c'est au Centre Régional d'Art Contemporain de Montbéliard. Ça s'appelle La Suée du Dindon, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir. On va commencer par Annette Messager.
Je pense que l'art est une croyance. Parce que cet objet, il n'est rien du tout. C'est fait avec des bouts de tissu blanc et un bout de filet. Et ça peut être exposé dans le monde entier. Donc, on croit que ça évoque quelque chose, que ça a une certaine valeur. Donc, il y a une croyance qui est aussi mystérieuse que la croyance religieuse. Moi, je crois en l'art. Bêtement, je peux dire que je crois en l'art. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas, mais je vois un dessin d'Artaud qui est fait sur un mauvais papier, mal dessiné, et c'est plus précieux que plein de choses pour moi. Donc c'est une croyance.
On commence par une archive de 1996, Annette Messager, donc, au micro de Jacques Taroni dans Le Bon Plaisir sur France Culture, qui dit qu'elle croit dans l'art et que finalement ce petit bout de ficelle, de petit bout de papier blanc, c'est son mysticisme à elle qui fait que ça lui donne de la valeur, un mysticisme croisé aussi avec l'idée de l'art. Des objets et des croyances, il y en a dans cette exposition. Est-ce que ça dit votre propre croyance à toutes les deux dans ce que c'est que l'art ?
Je dirais qu'il y a un mélange. La croyance pour nous se place avant tout dans la matière, et en tout cas des états dans lesquels la matière va pouvoir se retrouver quand on va la toucher, quand on va la transformer. Et en même temps, ça se croise aussi avec nos propres croyances, qui sont aussi à la fois des croyances populaires, mais aussi des croyances. Enfin, je rejoins aussi cette idée-là de croyance dans l'art. C'est ce qui nous amène à avoir cette pratique. Mais aussi des croyances des personnes qu'on va rencontrer dans notre pratique, qui viennent s'intégrer comme ça, se mêler à cette matière.
Je pense qu'il y a aussi le fait de travailler cette matière et d'arriver à ces sculptures et de pouvoir y réfléchir l'une et l'autre Comment avoir ce moment toujours dans le vivant avec elle, c'est là aussi où arrive souvent ce travail de performance. Vraiment d'avoir quelque chose qui se crée avec elle une fois qu'elles sont aussi réalisées.
Avec elle, les sculptures.
Oui.
Ouais. Et comme le dit Aurélie, la performance va nous permettre en tout cas de donner aussi une certaine charge à nos sculptures. Il y a aussi un rapport plus que formel de contact avec la matière directe qui fait que par la performance, on va pouvoir porter, je veux dire, sur nous aussi, les objets, les sculptures. Et en les portant, volontairement, elles vont être assez lourdes, assez contraignantes, si on les emploie comme des costumes. Et donc, elles vont nous mettre dans un état de concentration pour réussir à faire ces performances-là. Et c'est des performances souvent qui nous mettent dans des états proches de la transe.
Depuis toujours, depuis le début de votre pratique, même si elle est jeune, elle a quand même quelques années, vous conjuguez la pratique de la sculpture et des arts plastiques et celle de la performance, ça a toujours été de pair ?
Ça a toujours été de pair, oui. C'est vrai que ça fait maintenant presque 10 ans qu'on travaille toutes les deux. Et elle a toujours, il y a eu toujours cette espèce de rebond au début.
D'articulation.
Complètement. Au début, on n'en parlait pas forcément de cette façon, mais aujourd'hui, avec le temps, de pouvoir vraiment se rendre compte du va-et-vient qui se fait et notre envie aussi de discuter, d'y réfléchir, parfois avant la réalisation des sculptures, parfois après. Mais il y a en tout cas cet engouement.
Parce que ça part souvent d'une envie, soit d'attirance pour une matière, il y a un rapport presque passionnel avec la matière, mais ou alors une envie de geste qui du coup va enclencher l'un ou l'autre.
Sur quel terrain vous vous rencontrez toutes les deux ?
On se rencontre à l'école des Beaux-Arts à Angers. Du coup, c'est d'abord une histoire d'amitié, et puis rapidement, vraiment beaucoup d'échanges en fait, de l'une à l'autre, des sculptures qui ne sont pas les mêmes, mais dans le fond, il y a toujours ce même lien. Enfin, en tout cas, cet échange, elle paraît facile, limpide. Enfin, et ça commence comme ça. Ça commence par vraiment un état d'échange.
Avec des sculptures vraiment qui vous sont propres au départ.
C'est ça. Ouais. Le fait aussi d'avoir, je pense, des matières qui nous attiraient l'une et l'autre assez différentes. Mais au fond, il y avait cette même...
Il y avait un peu un lien miroir qui se faisait entre nous deux. On avait aussi, entre guillemets, un même contexte familial, même géographique, dans lequel on avait pu évoluer. Et,
qui était lequel ?
Donc on vient toutes les deux de ferme, en fait. En Normandie et en Vendée. Et on a grandi dans un contexte aussi...
Il y a le rapport au travail qui est vraiment présent. Donc déjà, là, quand on parlait de performance et d'état où on mettait notre corps dans cet sens, il y a aussi, je pense, le rapport au travail qui était présent pour tous les membres de la famille. Et au-delà de ça, il y avait aussi un rapport à la matière qui vient aussi...
D'une transmission familiale. Donc, par exemple, pour moi, c'est plutôt du côté de ma grand-mère. Qui était une grande bricoleuse et qui réparait les choses avec le tissu, en tout cas qui avait un rapport au tissu, aux matières textiles très fort. Et donc c'est de là aussi que part cette transmission.
Pour ma part, c'est mon père qui a vraiment un travail qui était autour... de la tronçonneuse, du bois, et qui m'a accompagnée toute mon adolescence au concours de bûcheron, et qui a eu cette envie de nous, je pense, l'un et l'autre, de nous parler de cette matière, mais aussi des outils, et de nous laisser cette liberté. Mais vraiment, ce rapport de transmission. Ouais.
Un rapport de transmission, et de par ces deux personnes qui incarnent en fait le départ, en tout cas la prise de conscience que ça va être les matériaux qui vont nous servir pour commencer une pratique artistique. Mais au-delà de ça, on était dans un contexte où tout le monde fait avec son corps, avec ses mains. Il y a un rapport aussi au labeur, un travail d'une journée vraiment accomplie. On va se mobiliser, on va aller presque jusqu'à l'épuisement, mais où les choses vont apparaître et se produire devant nous. Et de ça, on partageait en fait ce rapport au travail. Et effectivement, ça nous a permis de comprendre que ces transmissions-là se faisaient dans le groupe dans lequel on avait évolué.
Et puis aussi, je pense, d'avoir ce regard l'une et l'autre, de pouvoir s'ouvrir aussi l'une et l'autre et de ne pas rester
dans l'enclos familial ou du duo.
Et de cette transmission juste seule, mais de pouvoir l'en partager, de pouvoir en discuter et de l'ouvrir aussi doucement aux autres membres de notre famille et puis après...
À d'autres groupes.
Oui, parce que quand vous parlez de transmission, l'une et l'autre, que ce soit par l'usage du tissu, ou de la reprise, du fil, on imagine, ou du bois et de la tronçonneuse, c'était des transmissions qui n'avaient pas au départ de vocation artistique, ou si vous avez l'impression qu'on vous a donné des outils pour aller vers l'art, ou pas nécessairement?
Je pense que ça faisait partie de leur vie. Enfin, c'était vraiment quelque chose qui était là en eux, presque quelque chose de vital. Enfin,
ouais, de vital. Et après, il n'y avait pas de mots précis pour parler de composition, même, ou de rapport formel aux choses. Il n'y a pas de... C'est pas de conscience plastique, c'est plutôt d'utilisation dans cette vue-là. Mais en tout cas, nous, après, avec le parcours qu'on a fait, on a perçu ces dimensions-là.
Après, on a quand même deux membres aussi de notre famille. Je pense à ton grand-père et aussi à mon père qui travaillaient l'installation, la sculpture. Mais sans poser les mots de sculpture et d'installation, mais d'être vraiment en fait dans ce geste qui était présent, une envie.
Dans une pratique assez brute, en fait, de l'art.
Vous vous rendez compte que vous mettez des mots, enfin vous faites des phrases à deux comme ça, c'est drôle?
On nous le dit souvent, mais en fait on...
C'est, je pense, une façon de se rassurer l'une et l'autre.
Tout à l'heure, vous disiez, Aurélie Ferruel, à plusieurs reprises, ce qu'on veut, nous, c'est aussi en parler, c'est en discuter, comme si, finalement, cette espèce de passion pour la matière, c'était un bon terreau de départ pour les mots, pour la discussion, pour l'activation, aussi de cette manière-là. Ça prend quelle forme?
Je pense que la culture orale est extrêmement importante. De toute façon, dans la construction même de notre pratique, ça se passe dans les échanges qu'on a, et dans les échanges aussi avec les autres. Le langage et l'oralité, d'avoir quelque chose comme ça de diffus, qui reste pas capté, enregistré, qui est toujours, entre guillemets, vivant et dans le mouvement, qui va évoluer sans cesse, comme une histoire qu'on va raconter, et en fonction de la personne qui va la retransmettre, il y aura des modifications, et ces modifications-là sont importantes parce que pour nous, elles prennent aussi une consistance dans le réel.
Et puis elles laissent aussi place au fantasme. Enfin, du coup, le fait que ça soit aussi de pouvoir en discuter, d'avoir cette liberté, je pense qu'on l'a effectivement dans notre travail toutes les deux, dans ce moment assez intime. Mais le fait de rencontrer d'autres groupes, je pense aussi à des artisans avec qui on a pu travailler, Rémi Desportes, Sully Gamil, enfin, des gens avec qui on a pu vraiment échanger, ils étaient toujours présents en fait. Enfin, c'est vraiment on n'était pas là pour absorber, mais vraiment avoir un échange où on se mettait nous à nu, les personnes aussi. Et au fond, on parlait de matière, on parlait de groupe. Enfin, on parlait vraiment d'une chose qui résonnait entre nous deux et qui résonnait avec les personnes avec qui on pouvait rencontrer, qui fait qu'il y avait vraiment un partage.
Et au-delà de ces artistes ou de ces artisans que vous avez rencontrés, vous parlez aussi beaucoup de groupes ou de personnes tout à l'heure avec leurs propres croyances. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage? C'est évidemment quelque chose qui est une sorte de souterrain de tout ce qu'on peut voir dans les différentes expositions. C'est qui ces personnes-là?
Alors ces personnes-là sont avant tout des passionnés, des gens qui autour... alors ça va être du sport, le sport amateur, ou alors même...
D'un mai, ça peut être des confréries gastronomiques, ça peut être autour de la moto par exemple, comme on annonce cette exposition.
Ou d'un métier, comme la... Enfin, on a rencontré aussi une mère et son fils qui sont agriculteurs dans le Lot, monsieur et madame Bache, qui sont des personnes comme ça, qui à un moment donné vont partager sur leur mode de vie, qui vont nous faire rentrer... Enfin, c'est aussi un prétexte, ces rencontres-là, pour, en tout cas avec notre pratique, d'aller vers eux, de prendre contact et ensuite de rentrer chez eux. On va rentrer dans leurs ateliers, dans leurs maisons, dans leur intérieur, et on va discuter ensemble au départ de leur passion et ensuite de tout un mode de vie, un mode de fonctionnement.
Ils nous laissent place à pouvoir rentrer, mais aussi nous de pouvoir leur montrer aussi. Enfin, il y a vraiment un vrai échange qui se passe, et avec ces rencontres, c'est vrai qu'on peut pas dire que elles soient déterminées en avance. Enfin, on n'a pas une liste où on va dire.
Oui, j'allais vous poser la question du cadre en fait. C'est au cours de votre vie, c'est juste comme ça. Vous vous promenez, vous rencontrez des gens.
C'est ça. C'est aussi des opportunités. Enfin, vraiment, on laisse place à ce... On peut dire un espèce d'hasard qui arrive et qui tout d'un coup nous met à échanger et de vouloir que cette rencontre continue. Et alors d'aujourd'hui, on ne voit pas ces rencontres comme quelque chose qui arrive une fois et après ça disparaît. Non, c'est vraiment l'envie de pouvoir continuer, même des années après, enfin d'avoir juste ces choses qui arrivent comme ça et d'en profiter pour partager.
Et parfois, ça va nous amener, enfin, on ne cherche pas non plus à aller dans des directions absolument précises, à chercher quelque chose. Parfois, bien sûr, on va être attiré par un sujet ou
un événement
ou une matière. Mais parfois, c'est tout simplement le hasard. On va rencontrer quelqu'un qui va nous parler d'un événement. Je pense par exemple au Swap Meet à Mécrin. Des bikers, des boost fighters.
C'est quoi
le Swap Meet, c'est un regroupement, un événement en fait de bikers qui se passe dans la Meuse. Et où là, c'était un ami des bikers qui nous a parlé et qui nous a emmenés.
Donc c'est des motards. Hein.
C'est des motards, oui.
et encore une fois, c'est vraiment des groupes différents. On ne cherche pas vraiment une famille. Enfin, c'est vraiment d'arriver. Et d'avoir laissé place à rencontre, on n'a pas forcément les mêmes idées, on n'est pas dans cette idée de...
Utopique.
Ouais, voilà, utopique, ni, je dirais, d'arriver à se dire, bon, quels sont... Enfin, voilà, comment ça fonctionne, mais plutôt de laisser place à vraiment ce groupe, leur façon de réfléchir à ce groupe, qu'est-ce qu'ils mettent en place, comment ils arrivent à partager, du coup, leur passion ensemble.
Qu'est-ce qu'ils organisent, qu'est-ce qu'ils créent, qu'est-ce qu'ils développent aussi.
C'est vraiment l'idée du groupe qui vous intéresse, que ce soit une petite cellule d'une mère et d'un fils jusqu'à 15, 20, 30, je ne sais pas combien de motards. Et la manière dont en fait, le groupe se pense, se réfléchit, produit des choses pour être ensemble.
Complètement.
C'est ça, et c'est aussi venu d'une prise de conscience de notre propre pratique. Si on pose la question, je pense aux artistes qu'on peut rencontrer, c'est comment tu es venu à avoir une pratique artistique, de quoi c'est né, d'où viennent ces déclics, et de voir que pour nous, ça a été justement notre entourage qui nous a servi, entre guillemets, un apprentissage concrètement avec les outils, mais aussi dans la pensée, dans la vision de faire et de voir les choses. Je ne sais plus trop où est-ce que je voulais en dire. Oui, et du coup, c'est la prise de conscience de savoir déjà qu'avec Aurélie, on partage cette pratique-là et de voir qu'elle est aussi engendrée par tout un tas d'autres personnes et que ces personnes-là font partie intégrante de notre pratique. Finalement, on est beaucoup plus nombreuses que deux et que ça continue, entre guillemets, de se développer. Plus on va rencontrer de personnes, plus dans les échanges vont être de l'ordre de l'apprentissage et cette culture orale va fonctionner aussi dans les deux sens.
Et puis vous augmentez en fait en permanence.
Il y a ça, et puis ça nous permet aussi de réfléchir au duo de deux personnes qui travaillent ensemble. Effectivement, je pense que c'est important même de le dire, de cette question d'ego, de savoir aussi comment on se laisse place l'une à l'autre, le moment où on laisse respirer l'autre sur ses idées, même si on n'est pas forcément d'accord, de voir ce moment en fait, comment tout ça se construit. Je trouve que ça c'est très important et ces groupes-là nous permettent aussi d'y réfléchir et de pouvoir aussi
de prendre conscience comment eux ils fonctionnent et d'apprendre d'eux sur leur façon d'exister ensemble.
Vous parlez de la passion de la matière, on va écouter Juan Miro.
Par exemple, comme j'habite à la campagne, ça ne vient jamais l'idée de faire un tableau, au contraire, ça, c'est l'astuce, c'est ce qui m'intéresse. Par exemple, si la terre est mouillée, il pleut, alors je ramasse un peu de boue, je commence là, ça devient une petite statue, etc. C'est un caillou qui me dicte une forme, et un arbre. La peinture qui est plus intellectuelle, pour ainsi dire.
Vous sculptez, vous façonnez, j'emploie vos propres termes, oui. Mais vous n'employez jamais le mot tailler.
Non, parce que c'est mon direct, c'est plus cérébral. Le mot tailler, c'est une chose plus cérébrale. Moi, je façonne un bout de terre anglaise, alors je commence à façonner ça de façon à ce qu'il y ait l'empreinte du pouce. Enfin, la sensation de toucher à la terre anglaise avec les empreintes de vos doigts, du pouce.
Vous aimez mieux une matière que l'on peut façonner directement
c'est ça, oui.
Que le plâtre que l'on coulera après.
C'est ça, oui, qui devient une chose plus molle, plus froide, le plâtre. Oui, il faut une sculpture, il faut qu'elle tienne en plein air, en pleine nature. Il faut que la sculpture se confonde avec les montagnes, avec les arbres, avec les cailloux, enfin que ça fasse un tout. Donc, si vous prenez un avion, vous survolez à une certaine hauteur, il faut que cette structure se confonde entièrement avec son entourage.
1951, l'incroyable voix de Juan Miró au micro de Georges Charbonnier, qui dit il faut qu'une sculpture elle puisse finalement se fondre dans son environnement, dans son paysage, dans la nature. Il utilise ce mot-là. Et juste avant, il parle de son rapport à la terre glaise. Je prends un petit bout de terre glaise. En écoutant l'archive, toutes les deux, vous êtes en train de presque malaxer de la matière. Vous dites que vous vous êtes rencontrés sur une passion de la matière. Qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est une bonne question. Je ne sais même pas si on arriverait à poser les mots. C'est vraiment quelque chose qui est... Déjà, en fait, c'est assez intéressant parce que l'une et l'autre, on a cette même amour, ce désir face à la matière, et il n'est pas forcément de la même façon. Et ça nous enrichit beaucoup. Par exemple, Florentine, elle travaille vraiment cette matière avec patience, avec vraiment un rage. Elle rajoute, elle compose dans cette rajout. Moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et
vous travaillez comment, vous ?
Moi, du coup, c'est plus dans le fait d'enlever. J'enlève, en fait. Je retire. Et du coup, j'ai ce contact avec la matière qui est, du coup, peut-être plus rapide, on va dire. Mais, j'enlève sa matière. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me fascine du travail de Florentine, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas. Et à l'inverse...
Je serais incapable de faire ce qu'Aurélie fait, parce que c'est une pensée, même de la forme, qui fonctionne complètement différemment.
Bah, elle est inverse, en fait.
Ouais, ouais. Complètement.
Et sur ça, en fait, on travaille ensemble, mais on ne partage pas nos ateliers avec Aurélie. Et pour plusieurs raisons, on a commencé comme ça, ça fonctionne comme ça. On a une confiance pleine dans le travail de l'autre. Et en fait, on va concevoir les projets en discutant énormément, on va se séparer pour se laisser aussi ce plaisir à travailler la matière.
Seul.
Seul. Et ce plaisir aussi de se retrouver, et on appelle souvent ça comme des offrandes, c'est-à-dire qu'on va pas découvrir, on va découvrir seulement le travail de l'autre au moment où on va se retrouver, et on va voir comment ça s'assemble. Ça s'assemble aussi jamais parfaitement, et c'est ça qui est agréable.
Il y a un jeu qui se met en place, il y a vraiment... un travail de composition, mais aussi de vraiment avoir ce moment où on se retrouve, on est excité de savoir ce que l'autre a fait, justement avec sa propre réalisation qui
n'est pas sa propre vision aussi, parce que finalement vous parlez, on va essayer d'illustrer par exemple, prenons l'œuvre que j'essayais de décrire en début d'émission. Donc c'est trois figures féminines, je le disais, moi en tout cas je les ai vues entre des lianes et des branches, elles font se rejoindre le plafond et le sol, elles sont en terre, craquelées, il y a de la paille aussi un petit peu par endroit, et ces moments de serpent, de verre. Bon, prenons cela par exemple. Alors, vous vous dites quoi ? Comment vous vous répartissez le travail et comment vous arrivez à ça ?
Ah, déjà, il y a un long moment où, par exemple, le travail de tripaille dont vous parlez, c'est arrivé un bon moment de réflexion l'une et l'autre, de travailler sur cette expression, d'en discuter énormément, donc il y a vraiment un va-et-vient. Et puis, il y a cette étape où on commence juste à griffonner, tout en échangeant, il y a déjà un rapport juste très vague de notre première idée. Et puis, on repart dans nos ateliers, et là, on a un travail qui, au moment où on arrive dans cette exposition, où cette salle est vide, on pose les choses, on les regarde, on les découvre, donc il y a ce moment de surprise, et on réfléchit justement...
à comment on va les assembler et les mettre en forme.
Mais vous vous dites quoi ? Vous vous dites, toi tu fais la paille à la terre et moi je fais le serpent de verre ?
Avec cette pièce-là, du coup elle fonctionne un peu même différemment que d'autres pièces dans l'exposition, par exemple pour le dindon. C'était plus pour le dindon qui a fonctionné comme ça. Tripaille. Elle a été, en fait, c'est un assemblage de plusieurs pièces qui ont été faites en amont. C'est-à-dire qu'il y a une certaine forme de recyclage. On a beaucoup travaillé le foin, la paille tressée, et qui ont existé sous forme juste, où la paille était visible. Et ensuite, pour une autre présentation, elles ont été recouvertes de terre avec du torchis. Et en fait, par exemple, cette tripaille, la structure, il n'y a pas de structure, c'est seulement une structure de paille et de foin qui sont tressés, qui sont assemblés, et avec le torchis, ça fait structure. Et donc là, on arrive avec tous ces morceaux d'anciennes expositions, qui sont déjà des corps en soi, et qui, là, vont être assemblés ensemble. Enfin, je veux dire, ensemble, moi et Aurélie, on va les regarder et on va essayer de composer avec ces morceaux.
avec justement le travail en amont, avec l'artisan, enfin l'atelier Yamil avec qui on a pu réaliser ces têtes en verre. Avec là, on a beaucoup échangé. Par exemple, là, moi, j'étais avec l'artisan, et avec Florentine, on s'appelait, il y avait un échange, mais c'est vrai qu'il y a ces deux temps. Et après, il y a vraiment ce travail de composition pour nous, là, d'avoir cette deuxième exposition personnelle, c'est aussi de pouvoir expérimenter. On arrive sur ce moment, on arrive, et là, on a tous les éléments, et on sait que c'est un moment où on joue, enfin, il y a quelque chose qui se joue entre nous, avec l'espace aussi, avec le lieu.
Et qui va remettre en place des pièces déjà réalisées en amont, mais de façon in situ, c'est-à-dire qu'elles vont être complètement mélangées les unes aux autres, elles vont être liées par la matière même, enfin la terre, le torchis, ça va faire lien entre tous ces éléments.
Et là aussi, en fait, elles se rencontrent. C'est ça aussi qui nous plaît, c'est que c'est toutes ces pièces qui sont liées à différentes rencontres. Là, on a du coup la chance pendant cette exposition de pouvoir elles aussi se rencontrer et former.
À la fois des pièces qui ont été développées suite à ces rencontres avec les bikers, mais aussi avec le vanier, avec les agriculteurs, avec d'un seul coup tout le monde entre guillemets mange ensemble.
Est-ce que vous avez l'impression que du coup il y a une sorte de tierce territoire qui se crée entre la discussion que vous avez eue l'une et l'autre, le semblant d'accord ou de début de débauche de quelque chose de commun, et puis ensuite chacune part dans son coin, vous vous retrouvez forcément, il y a un écart entre ce qui était imaginé et ce qui advient, et du coup la pièce c'est le troisième corps, quoi.
Complètement.
C'est ça. Et même dans la réalisation, quand on est chacune séparée dans nos ateliers, il y a cette entre guillemets troisième entité qui flotte au-dessus de nous dans les décisions plastiques qu'on va pouvoir prendre. On imagine aussi ce que potentiellement l'autre aurait aimé faire ou voir ou choisir en termes de couleur dans nos choix plastiques qu'on fait seul, et ce qui nous permet aussi de prendre une certaine distance avec ce qu'on réalise pour pas que ça nous plaise seulement à nous, et d'avoir une sorte d'entre-deux de choses qu'on va faire et ensuite qu'on va mettre en commun.
Toute une pensée du travail, en fait. Mmh.
Tout ce que tu fais, t'as grand tansa.
Je sais pas les paroles.
On s'en serait pas aperçu.
Et chantons-la en français.
Non, on peut pas la chanter en français parce que si on la chante en français, tu vas sortir, va recommencer par la 25. Come on!
Dans une basse-cour était logé un dindon d'âme fière.
Il refusait les grains de blé que lui donnait la fermière.
Il avait le dédain des dons, c'était un dindon digne. Il avait le dédain des dons, c'était un digne dindon.
Tang, tang, tang. Oh.
Un jour une dame folle d'amour lui fit don de sa personne.
Il lui répondit, j'ai toujours refusé ce qu'on donne.
Il avait le dédain des dons, c'était un dindon digne. Il avait le dédain des dons, c'était un digne dindon.
Mais un beau soir de réveillon, on le plume, on le saigne.
Et dans le four, on lui fit don, ding dang dong,
d'un beau lit de châtaigne.
C'est pas ça?
Non.
Il avait le dédain des dons, c'était un dindon digne. Il avait le dédain des dons, c'était un dindon.
Dindon. Dindon.
France Culture.
Par les temps qui courent, Marie Richeux avec
Aurélie Ferruel et Florentine Guédon.
C'est quand même assez incroyable. Merci beaucoup Raymond DeVos et Patrick Verbeck, le dindon digne qui avait le dédain des dons. Il y a plein de choses en fait dans cette chanson qui sont pour nous. On évoque avec vous deux la suée du dindon, cette exposition qui est visible en ce moment au Centre Régional d'Art Contemporain de Montbéliard, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. Il y a plein de choses. Peut-être, on commence quand même par le dindon puisqu'il donne son titre et que c'est une des sculptures centrales et assez imposantes. Vous en parliez tout à l'heure en disant que finalement, c'est presque cette sculpture qui est la plus représentative de la manière dont vous avez l'habitude de travailler. Est-ce que vous pouvez essayer de la décrire déjà, pour celles et ceux qui nous écoutent ?
Eh bien, c'est un énorme dindon qui a une tête en bois ornée de perles en verre.
Avec, qui est posée sur un sol en pierre. Assez surélevé, réalisé en torchis.
Et qui a un corps de trois bosses, fait d'un tressage en saule, orné lui aussi de différentes pattes en céramique, dont certaines suent. Et il y a cette eau qui goûte.
De sa tête, de son cou, et aussi donc de ses pattes. C'est en fait une énorme fontaine. Et il a un sexe en bois qui sort de son corps, du milieu de son corps, et qui lui aussi est arrosé par une des pattes.
Et il a beaucoup plus de pattes que n'en ont généralement les dindons.
C'est vrai.
Ça c'est vrai, parce que c'est aussi des pattes qui ont valeur, en tout cas moi c'est comme ça que je les ai vues, qui ont aussi valeur d'amulette, comme on a des pattes de lapin qui portent chance. Il y a vraiment cette qualité aussi des objets qui, j'en reviens à ce que disait tout à l'heure Annette Messager dans l'archive, qui sont dotés de croyances, c'est-à-dire qu'on sent bien que ce sont des objets qui sont animés par quelque chose, par notre regard certes, mais aussi par la main qui les a façonnés et par ce que vous y avez mis. Il vient d'où ce dindon géant à trois bosses avec plein de pattes et tissu.
Alors déjà, c'est une fascination de l'animal, pour autant pour ce qu'il représente. Je veux dire,
d'un point de vue sculptural, c'est vrai qu'il est, il est incroyable. Mmh. Enfin, même dans cette rencontre amoureuse où il se met une posture incroyable qui pouvait faire penser au pan, mais non, qu'il n'est pas un pan.
Il gonfle.
Il a vraiment les plumes qui se déploient et en même temps on a cette gorge, ces couleurs. En plus, c'est un animal qui ne peut pas cacher ses émotions. C'est quelque chose qu'on trouve aussi intéressant puisque le fait de ses couleurs, en plus on a un rapport à la couleur qui est quand même rouge et bleu, quelque chose d'assez musculaire, et en même temps s'il a une excitation sexuelle ou bien une colère, il devient blanc. Enfin, il y a ce truc qu'on ne peut pas cacher en fait, ces émotions qui est assez belle.
Et d'où se travailler aussi avec la transpiration. C'est aussi quelque chose qu'on ne peut pas cacher quand on a les mains moites, quand on a une émotion forte, on va se mettre à suer, à développer aussi des odeurs, à changer d'état, de changer de couleur nous aussi. Et c'est aussi une façon expressive que le corps a de faire savoir ça. Et puis...
Au-delà de ça, je pense que effectivement le dindon, c'est un animal qui nous intrigue beaucoup, parce qu'au fait de travailler autour des groupes, on n'a pas que cette vision utopiste du groupe où tout se passe bien, même si du coup c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup, mais on a aussi cette réflexion autour du bouc émissaire, autour de cette chose qui peut même fédérer des gens, autour de pointer quelqu'un. Le dindon, c'est cet animal dont on se moque, en plus aujourd'hui... C'est assez intéressant puisque c'est un, dans certaines exploitations agricoles, c'est un animal qui peut ne pas forcément se reproduire tout seul.
Donc oui, le rapport à cette tête d'Inde. En fait, il est, le système de production a fait que son corps a énormément changé. Il est devenu de plus en plus volumineux. Et donc, il ne peut plus, il lui faut un petit peu d'aide. Et puis, dans un système de production intensive, pour rentabiliser, entre guillemets, cette sexualité, on va...
Il y a un métier qui a été créé de masturbateur de dindons.
Pour récolter la semence et inséminer ensuite les dindes. Et ça a transformé même la sexualité du dindon. Il s'est mis à développer des attirances, on avait lu des articles sur
c'est
ça.
C'est-à-dire ?
Des attirances pour l'homme.
Ok. Du coup, la suite du dindon. Forcément, je... Non, moi j'ai déjà vu plein de dindons, mais j'avais pas connaissance de ce genre de pratique. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que là c'est parce que, vous le disiez tout à l'heure, vous venez de deux familles agricoles et que du coup c'était un animal qui était dans votre entourage, ou c'est aussi né de différentes rencontres et que vous avez eu envie d'en faire, parce que c'est presque un immense totem au milieu de cette exposition?
C'est pas forcément par rapport, je pense, à nos familles, mais plutôt vraiment une rencontre, comme on le disait, vraiment de cette...
De rapport à la sculpture, à ce qu'il est comme sculpture, mais aussi de ce qu'il représente comme, voilà, le dindon de la farce.
La dinde.
La dinde aussi, et situation dans laquelle on peut aussi facilement se retrouver, nous aussi, ou les personnes dans les groupes qu'on va voir, ou en fonction du milieu...
Vous voulez dire que malgré sa grandeur, il serait l'être faible de l'exposition?
Peut-être.
Peut-être, ou je ne sais pas si un dindon est aussi... ce mépris qu'on peut avoir pour lui peut devenir peut-être une force aussi.
Vous avez l'air d'y tenir à cette question-là, d'être parfois le dindon de la farce ou la dinde, ou en tout cas d'être parfois regardé avec indélicatesse. C'est un des sujets qui traverse l'exposition?
Oui.
Oui, je pense. C'est, encore une fois, dans les groupes, et je pense même de ces gens qui peuvent être passionnés et pour autant être un peu une blague. Enfin, justement, on nous pose souvent la question, parce que notre travail, pour nous, est lié à l'humour. Il y a beaucoup d'humour qui est présent, mais il n'y a pas du tout ce rapport à la moquerie, en fait. Mais je comprends qu'ils puissent se poser la question, même nous, on se pose la question. C'est présent aussi dans ces groupes qu'on rencontre, même dans notre propre groupe à nous. Et ça, ouais, ça nous intéresse beaucoup de pouvoir, en tout cas, le pointer et en parler. Je pense que c'est...
Mais ça vous intéresse pour vous en méfier? Ou ça vous intéresse parce que simplement ça fait partie de la vie des groupes? Ou alors parce que vous allez vers des groupes qui sont parfois moqués?
Je pense, en tout cas, pour moi, ça devient une force. Enfin, c'est vraiment ce glissement, en fait, où tout d'un coup, c'est là. Et le glissement arrivé à cet état de force, comme ce dindon qui est vraiment présent, qui est au milieu malgré qu'il sue et qu'il est là. En même temps, il est beau, il est fier,
Il est présent et il est et on en parle. Et il y a aussi ce jeu-là. C'est quelque chose dans un milieu un peu d'entre-soi. Tout va paraître entre guillemets normal, va être accepté. Et quand on déplace les choses, il y a un rapport un peu comme ça d'ovni et qui peut être moqué ou mais qui reste fascinant. Enfin, on peut le regarder, si on en parle autant, c'est qu'il nous attire.
Oui, vous voulez dire que finalement, quelle que soit la manière dont on en parle, Aurélie Ferruel, c'est ça que vous soulignez, il y a une existence, et que c'est à cette existence que vous décidez de donner de la force.
Exactement.
Ouais. Peu importe si c'est avec des rires gras. Est-ce que ça a à voir avec le milieu dans lequel vous avez évolué depuis que vous êtes passé par les écoles d'art?
Peut-être, oui, je pense que c'est aussi quelque chose qui vient de là. Et puis je pense que ça vient aussi de toutes les personnes dans lesquelles on a pu être entourées, qui ont eu ces sentiments aussi, je pense, qui ont traversé. Et qu'on trouve ça justement bien de pouvoir en parler et en parler aussi différemment. Et revoir aussi cette valeur de travail qui est là, même cette matière de la terre qui est présente. Moi, je la vois de mille façons différentes. Je la vois autant sur ces archives où on est passé, ce rapport à la matière qui est vraiment physique, mais en même temps, qu'est-ce que c'est que cette terre? Enfin, elle nous entoure, elle est là, on ne la voit pas, en même temps c'est sale, mais c'est... Enfin,
c'est ce qui nous permet de nous nourrir, c'est ce qui permet de faire revivre les choses. Aussi. Et c'est aussi une matière vivante qui évolue constamment.
Elle est fascinante.
Je préconise la réhabilitation des génies de café parce qu'on avait l'habitude dans le temps de se moquer énormément des gens qui sont tout le temps en train de discuter dans les bistrots, qui ont de grands projets qu'ils ne peuvent pas réaliser. Oui. Alors que maintenant, nous commençons à comprendre dans notre société que tout le monde est un génie de café, que pratiquement personne ne peut réaliser toutes les idées qu'il a. Hein. Nous vivons dans un système... un peu clos, un système qui est basé sur, moi je crois, sur la prostitution.
Sur la prostitution. Et tu vois que, je t'interromps, tu vois que Picasso est un génie de café aussi?
Oui.
16 heures.
Oui, mais enfin, il n'est pas. Disons que là où je suis supérieur à Picasso, c'est que je suis davantage un génie de café que lui. L'autre truc qui en fait partie, c'est l'hommage au raté. Il y a des années que je maintiens que les plus importants dans l'art, ce sont les ratés. Et au moins, il y a quelque chose en leur faveur. Je ne vais pas développer ce point, parce qu'on m'a accusé d'un tas de choses. On me dit que, bien sûr, si. moi, je suis un raté, donc j'essaie de me rendre hommage à moi-même. Mais surtout dans l'idée, dans le contexte de...
Mais oui, mais justement,
je suis contre l'idée d'admiration. Au moins, personne n'admire les ratés. Et alors, une autre chose qui fait suite à cela, c'est le... glorification de l'esprit d'escalier que j'appelle l'esprit d'ascenseur maintenant
pour changer
un peu, on prend davantage l'ascenseur parce que je sais que en général ce n'est qu'après, qu'une fois qu'on se retrouve dans l'escalier, qu'on sait ce qu'on aurait dû dire, comme c'est probablement après cette conversation que beaucoup de choses que j'aurais pu dire vont venir, je préfère l'accepter, le glorifier ce manque une fois pour toutes, pour que finalement, comme je l'accepte, ce que je dis, au fond, c'est plus important que ce que j'aurais pu dire. Je mets l'esprit d'escalier sur un piédestal, et puis je continue. Je discute avec toi, et tant pis si je dis des conneries.
Ah là là, c'est délicieux, 1970, un extrait d'un atelier de création radiophonique, René Farabet et Robert Filliou. C'est un artiste qui est cité quand on commente votre travail à toutes les deux, en tout cas dans le texte qui présente l'exposition actuelle, Aurélie Ferribel et Florentine Guédon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette conversation de café qui vous interpelle, qui vous parle peut-être de votre pratique, qui vous parle de ce à quoi vous réfléchissez, qui vous parle de ce qui vous anime dans votre travail?
Bah déjà, je le trouve très juste. Enfin, il est très bien trouvé. Bravo. Et cette place, justement, là, à l'expérimentation. Enfin, je trouve que c'est. Il est très riche en fait. Il nous apporte là, par exemple, dans cette exposition, d'arriver et de se dire. Qu'on nous laisse cette place, la direction nous a laissé cette place de pouvoir expérimenter et de ne pas se dire qu'on arriverait à quelque chose de fini.
Du temps aussi. C'est-à-dire, par exemple, on vous laisse l'espace pendant combien de temps?
Là,
on a pris 2 semaines et demie.
Ah ouais, 2 semaines et demie, ouais.
Et vous pouvez réintervenir?
Oui.
Je vous ai coupé, pardon.
Il n'y a pas de souci. Mais oui, c'est ça, c'est laisser cette place et de ne pas se bloquer à aucun moment, de pouvoir vraiment continuer à rajouter
les choses, à les transformer et à les faire se confronter ou faire intégrer, comme ça, comme tu parlais tout à l'heure, d'augmenter, d'ajouter des choses qui viennent d'ailleurs ou qui seront une façon de réactualiser les choses, ou en tout cas de les rendre un peu plus réelles.
Pour moi, ça parle du vivant, en fait. Cette place, justement, de dire qu'on est libre dans ce moment de pouvoir expérimenter,
de pouvoir
c'est quelque
rater,
chose de vivant. Justement. Ouais, de pouvoir rater, c'est...
C'est qu'à chaque fois, on va faire quelque chose qui ne va pas forcément nous plaire, ou en tout cas répondre à la vision qu'on avait comme ça construite en amont. On va créer quelque chose, et ça va être ce qui nous intéresse, c'est que ça... nous surprennent.
Ouais, on veut être surprise. Ouais,
et que ça soit, c'est bien que ça soit pas exactement tout bien ficelé, qu'il y ait cet échec en fait qui arrive pour pouvoir penser à la suite, à la prochaine fois qu'on réinterviendra ou qu'on remaniera en fait les choses.
Oui, ça me fait penser finalement. Vous vous dites Aurélie au vivant.
Et vous vous dites, c'est le réel, et tout à l'heure, vous avez dit, le dindon, il est présent. Et il y a vraiment quelque chose, en fait, à un moment donné, j'ai l'impression que votre travail, il se dit, qu'est-ce qui est là aussi? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui arrive? Et qu'il faut faire avec ce qui est là, avec la terre, avec les gens, avec ce qu'ils racontent, avec leurs croyances, avec les histoires, avec les blagues, avec ce qui foire, avec ce qui réussit. On a l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, comme ça, d'un rapport au réel. D'un rapport aussi spontané. Qu'on peut avoir, qui va être sur le moment et face à nous, et de considérer que ça va évoluer et que pour que ça continue d'exister, il faut que ça évolue. Il ne faut pas que ça soit figé.
On s'intéresse aussi aux pratiques traditionnelles, populaires, mais pas dans un sens conservateur de la chose. Pour nous, si la tradition nous intéresse, c'est qu'elle a évolué, c'est qu'elle a bougé, c'est qu'à un moment donné, elle s'est peut-être déplacée aussi, d'un groupe à un autre, d'un territoire à un autre, qu'elle a pris une autre forme, ou que des ajouts ont été faits pour qu'elle corresponde, entre guillemets, à une sorte de nécessité locale. Et c'est dans cet aspect-là que le vivant va nous intéresser.
Quand vous dites que vous y intéressez, c'est-à-dire que vous enquêtez, par exemple, vous vous renseignez, vous avez cette pratique-là ?
Oui, on va aller beaucoup sur le terrain, rencontrer les gens qui pratiquent. Et
pratiquent quoi, par exemple ?
Des chants, des danses, des moments de partage aussi, je ne sais pas, d'une création d'un alcool, d'une fête. Enfin, le rapport à la fête, vu qu'en rencontrant ces groupes, nous a souvent amené à ce moment de fête. On l'a trouvé assez... regroupe tout ça, en fait. Il regroupe
le partage autour d'un seul coup. On va rencontrer, par exemple, la confrérie gastronomique des Chevaliers du Goût de Boudin en Normandie, à Mortagne-au-Perche, qui est une confrérie sur le boudin noir, qui va créer un concours du meilleur boudin, mais qui va aussi créer des événements ponctuels. Et bien, dans cette confrérie-là, il y a à la fois le rapport au costume, le rapport au groupe, le rapport à cette création d'identité, mais le rapport à la fête, c'est-à-dire à la nourriture, peut-être aussi à l'alcool, et donc au chant, à la danse, à la musique, au rassemblement. Et en fait, ça va nous permettre de glisser comme ça, nous ouvrir des portes.
En tout cas, de voir aussi que ce moment de fête fait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Et c'est vrai qu'elle lie aussi les gens.
Il y a plusieurs étapes. Il y a la cérémonie, la liesse. Ce moment aussi, en dernier lieu, où ça va déborder, dans la fête en tout cas.
Et peut-être on peut dire deux mots avant qu'on l'écoute d'une performance. Vous disiez tout à l'heure, les performances sont là pour activer, pour faire évoluer nos sculptures, pour les faire vivre. Et là, à vous entendre, on peut presque se dire que la performance, c'est aussi la fête, c'est aussi cette transe-là. Est-ce que vous voulez bien me dire deux, trois petites choses de la danse du cul ?
La danse du cul, oui, on peut en parler. C'est du coup une pièce qui a deux hommes en bois et deux parures que nous portions lors d'une performance filmée, donc des jupes, un travail de collier, de coiffe, de chaussures.
Et c'était un jeu de séduction avec ces hommes.
On
séduit nos sculptures comme elles ont pu nous séduire avant de devenir sculptures elles-mêmes. Et on s'est intéressé à la façon dont on pouvait séduire aujourd'hui, peut-être, avec cet héritage du passé. Donc on a été voir nos grands-mères.
Qui ont chopé au bal et qui nous ont parlé, elles, de leur vision de la séduction, qui n'est pas forcément la nôtre, mais qui, du coup, était intéressant de voir ce qu'elles avaient envie de nous transmettre, en tout cas dans ce moment qui est lié à la préparation, se préparer, lié aussi au moment de l'échange, à ce moment de danse.
Le moment où c'est bon, on a réussi à séduire, on est avec la personne qu'on a choisie, et comment on fait pour la garder dans le temps.
Ou pas, enfin voilà, c'était vraiment leur regard de nos grands-mères.
Sur cette séduction, et donc on a écrit des paroles à partir de ce qu'elles avaient raconté, et on est revenu vers elles pour qu'elles les chantent, accompagnées de mon grand-père qui fait de l'harmonica.
Elles chantent pas comme des chanteuses, parce qu'elles ne sont pas du tout chanteuses, mais elles ont cette petite voix un peu brute, avec tout ce qui peut se passer dans la maison à ce moment-là où on les enregistre.
Avec leurs accents aussi.
Ouais, avec leur patois. Et elles sont... cette musique nous entraîne à nous pouvoir danser autour de cette sculpture, à aller séduire ces hommes en bois.
Donc ça fait une sorte de décalage, comme ça, de mouvement entre leur génération, la nôtre... Cette situation étrange dans laquelle on se positionne, et puis ce contexte où on est dans une salle des fêtes, seulement toutes les deux, avec nos sculptures en bois.
Rythmées par nos pas de ces grandes chaussures
sur le parquet.
Avant d'aller au bal danser, faut bien s'habiller, se parfumer, faudra pas rentrer trop tard. le père pourrait s'inquiéter.
Voulez-vous aller danser, les pieds l'un devant l'autre, les épaules en arrière, regarde ton partenaire.
Commence les jeux de regard et les sourires. On s'invite à flirter, à danser ensemble. Allez danser, les pieds l'un devant l'autre, les épaules en arrière, regarde ton partenaire. Savoir diriger, se laisser diriger. On ne fait pas que poser la main, on le séduit. Oui, allez danser, les pieds l'un devant l'autre, ses épaules en arrière, regarde ton partenaire.
Surveille discrètement qu'il s'en aille pas courir ailleurs. Il faut être honnête et laisser respirer.
Allez danser, les pieds l'un devant l'autre, les épaules en arrière, regarde ton partenaire.
Que des bons conseils. C'est l'enregistrement, c'est la bande-son de cette performance où vous dansez en effet l'une et l'autre, ne suivant pas nécessairement tous les bons conseils qui vous sont donnés. Donc je ne sais pas si vous allez choper au bal finalement, l'une et l'autre. En tout cas, la voix des deux grands-mères, et ça me fait penser à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire peut-être montrer des dindons qui sont pas souvent montrés dans les centres régionaux d'art contemporain, en tout cas peut-être pas de cette manière-là, faire entendre des voix qui ne sont pas non plus complètement toujours très entendues, ni dans ce cadre-là. Est-ce que vous diriez, sans en faire un étendard, que c'est aussi l'une des raisons de votre désir de faire?
Bah, je pense qu'en fait, encore une fois, ça parle justement de quelque chose de réel et d'actuel. Enfin, et c'est la vie et c'est ce qui est présent. Donc, je ne sais pas si, en fait, il y a cette volonté de vouloir dire « Regardez ces gens », mais pour moi, en fait, elle fait partie, en fait, de la vie. En fait, elle fait partie de tout ce qui est autour de nous.
D'une sorte de majorité invisible, hein, comme... Enfin, il y a presque un rapport exotique à, d'un seul coup, déplacer, justement, ces voix-là, ces pratiques-là, dans des lieux qui sont consacrés.
Et pour nous, elle est justement pas exotique, en fait. Ouais. C'est les gens qui nous entourent, en fait.
On est d'accord que ce sont les gens qui vous entourent, mais par contre, vous avez bien conscience que ce ne sont pas les gens qu'on entend tous les quatre matins, ni sur cette antenne, bien ni sûr. À la télévision, et que vous parlez de majorité invisible, c'est aussi des corps, des voix, des façons de faire et de dire qui sont très, comme ça, très tenues, très éloignées.
Complètement.
Exactement.
C'est très juste. C'est pour ça que ça nous touche.
Qui sont minoritaires dans ce qu'on peut voir, dans ce qu'on peut écouter. Et je crois que c'est là aussi...
On ne le dira pas avec les mots, en fait, c'est pas notre manière de faire. Mmh. C'est vrai que pour nous, c'est avec la sculpture, mais c'est exactement ça.
En ce qui concerne la psychologie du carnaval, je suis personnellement assez opposé à la thèse cathartique. C'est-à-dire à l'idée que le carnaval correspondrait à un défoulement, qu'à une certaine période de l'année, l'homme a besoin de laisser d'ouvrir la bonde du vin qui se trouve en lui. C'est une explication très ancienne. Déjà au XIVe siècle, un philosophe, un théologien, se charge de défendre le carnaval sur le thème suivant: les hommes sont pareils à des tonneaux de vin nouveau et il est nécessaire de temps en temps d'ouvrir la bonde de façon à ce que les cercles de tonneaux n'éclatent pas. Eh bien, j'ai l'impression, là encore, qu'au lieu de considérer le carnaval comme ce moment où l'on enlèverait la bonde, j'ai l'impression que c'est au contraire un moment où il y avait autrefois la plus grande tension dans la société. Une plus grande tension qui était marquée par des oppositions très dures, que l'on allait bien sûr jouer, disons, sur la place publique, des oppositions sociales que l'on allait représenter sur la place publique, mais je serais loin d'y voir, comme disons l'ensemble de l'école freudienne, simplement une action qui serait une sorte de cassé d'avance, qui aurait pour effet de briser d'avance les révoltes.
Le carnaval n'est pas là pour briser en avance les révoltes, peut-être qu'il est là pour mettre en scène le début d'une révolte. C'est une archive de Claude Guaignebet en 1976 sur France Culture. On termine avec cette archive parce que le carnaval est présent, présent à la fois dans une sorte d'esprit des œuvres que vous présentez, mais aussi tout simplement parce que vous mettez en scène des costumes et qu'on imagine qu'ils peuvent servir ces costumes-là. En quoi ça vous intéresse ce moment-là du carnaval ?
Mais il est assez juste, c'est aussi un moment où on a pu faire partie d'un carnaval, de travailler avec un ami artiste, Rémi Duprat, qui nous invitait au carnaval de Pau, et d'avoir ce moment, et de voir qu'il n'arrivait pas forcément, il n'arrive pas grâce à l'ivresse, mais directement les personnes portaient les costumes, et sans parler d'alcool, sans parler de ce moment, ils étaient déjà en fait dans quelque chose qui leur permettait une liberté, et de pouvoir sortir d'eux, qui est incroyable.
Une liberté d'expression, où le corps entier devient une sorte de grimace, et où ça met les gens dans un état à partir du moment où le costume est porté, on est autre chose.
On laisse place justement à cette envie de pouvoir tout sortir, tout ce qu'on a un peu à l'intérieur, tout ce qui est vraiment interne, de pouvoir se dire c'est le moment, je peux, et là, c'était très fort.
Merci beaucoup à toutes les deux, Aurélie Ferruel et Florentine Guédon. La suée du dindon, c'est visible en ce moment jusqu'au 19 avril, il y aura peut-être des modifications alors.
Peut-être.
Peut-être.
Le Centre régional d'art contemporain de Montbéliard. Merci à vous deux. À la réalisation ce soir, c'était Lise-Marie Barré. À la prise de son, Amandine Grevaux. Par les temps qui courent, c'est Romain Debec de Lièvre, Jeanne Aléos, Julie Ascal et Marianne Chassor. C'est aussi une émission sur franceculture.fr. À la page de Par les temps qui courent, il y a une petite enveloppe pour nous écrire. Merci beaucoup pour vos messages. C'est aussi un podcast auquel on peut s'abonner via l'application Radio France. Et c'est tout. 22h, bientôt le journal sur France Culture. Très belle soirée à toutes et à tous.
Bisous, bisous, bisitos.